Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici d'abord le titre. En Ituri, la population de Bounia retrouve une quiétude totale depuis près de 2 mois après une série de criminalités urbaines qui a fait des morts et des blessés. Une accalmie attribuée aux patrouilles renforcées de la nouvelle unité des FRDC baptisée Tigre. Dans la province du Sankuru, un calme apparent règne ce mercredi à Lodja après les troubles qui ont secoué lundi et mardi cette localité. C'était après le meurtre du président des jeunes du quartier Otekele. L'invité de ce journal est Ali Bingi, assistant social et chargé de projet pour les œuvres Maman Marguerite à Lubumbashi. Cette structure appartenant aux Salésiens de Don Bosco regroupe plusieurs centres qui encadrent actuellement plus de 400 enfants en rupture familiale à Lubumbashi et Kipush. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour. Ce journal part de l'Ituri. La population de Bounia retrouve une quiétude totale depuis près de 2 mois après une série de criminalités urbaines qui avaient fait en juillet dernier au moins 4 morts et 10 de blessés. Aujourd'hui, les habitants circulent et travaillent librement, même tard dans la nuit. Une accalmie attribuée aux patrouilles renforcées de la nouvelle unité des FARDC baptisée Tigre. Les détails avec vous, Isaac Remoyope.
Dès 17h30, ces militaires reconnaissables à leur tenue vert olive et à leur discipline sont déployés dans les 24 quartiers de la ville de Bounia. Ils effectuent des patrouilles pédestres et motorisées toute la nuit jusqu'au petit matin. Ils procèdent au contrôle des automobilistes, des piétons, des motards et de leurs passagers. Chacun doit présenter ses documents officiels, notamment sa carte d'électeur. Les véhicules sont systématiquement fouillés pour repérer d'éventuelles armes ou objets suspects utilisés dans les actes criminels. Au départ méfiante, la population a fini par accorder sa confiance à ses militaires garants de sa sécurité.
Mon quartier de Nyakasanza, un qui contient 16 avenues, je pars à Sayo avec 29 avenues, mais je trouve que nos militaires ne tracassent personne.
Grâce à ces patrouilles, les habitants circulent librement jusqu'à tard dans la nuit sans être inquiétés. Les bars et bistrots sont à nouveau animés, contrairement au mois précédent où l'insécurité avait vidé ses lieux de tout client. Un habitant témoigne.
Je salue la présence de cette nouvelle unité de Tigre. La ville de Bounia était sous menace, mais maintenant avec la patrouille de combat, la situation est vraiment sous contrôle. En tout cas, il y a aucun dérangement.
Les forces de la MONUSCO appuient également les FARDC dans ces patrouilles nocturnes pour renforcer la protection des civils. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans les territoires de Beni au Nord qui vaut pendant ces temps, un camion transportant une assistance humanitaire destinée aux déplacés des localités d'Eringeti et Maimoya a été incendié la nuit dernière par un groupe de jeunes dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire et à 30 kilomètres de la ville de Beni. La société civile condamne cet acte et appelle les jeunes à la vigilance plutôt qu'à la justice populaire. Le récit fait avec Marc Marofimbo.
L'incident s'est produit vers 20h locale sur la route nationale numéro 4, près de la mosquée du quartier Massosi d'Oicha. Deux camions à provenance de Beni, chargés d'une assistance humanitaire destinée aux déplacés des Ringeti et des Maimoya, dont les groupements de Bambouba Kisiki, ont été interceptés par un groupe de jeunes. Ces derniers ont contraint les chauffeurs à s'arrêter afin de vérifier le contenu du chargement qu'ils soupçonnaient, selon eux, d'être un ravitaillement destiné aux groupes armés. Au cours de cette altercation, l'un des deux véhicules a été entièrement incendié, détruisant toute l'aide humanitaire qu'ils transportaient. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les jeunes manifestants, mais le camion et sa cargaison étaient déjà consumés par les flammes. La société civile d'Oicha condamne fermement cet acte. Son premier rapporteur invite les jeunes à rester vigilants sans recourir à la violence ni à la justice populaire. Pour sa part, la bourgmestre de la commune rurale d'Oicha, Eugénie Kavira Mwenge, confirme l'incident et annonce l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de cet acte. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Santé à présent, à Goma, les personnes vivant avec les maladies chroniques traversent une période difficile. Elles font face à une rupture inquiétante des médicaments. Depuis plusieurs semaines, les stocks des médicaments essentiels sont presque épuisés. Dans certains hôpitaux comme dans les pharmacies, les rayons sont presque vides. Cette rupture les expose à des graves risques, une situation qui met en danger la vie des milliers de patients. Le point avec vous, Ronéline Thibonera.
Les personnes atteintes d'hypertension, de diabète ou du VIH-Sida, pour ne citer que ces pathologies, sont parmi les plus durement touchées. Elles peinent à se procurer les produits essentiels. Sans traitement régulier, leur état de santé se détériore rapidement. Pour ces malades, le traitement ne peut attendre. Il doit être pris chaque jour sans interruption.
Mon médecin m'avait prescrit Calcul Stop en sirop. J'ai pu prendre la première dose, mais lorsque je suis allée en pharmacie pour continuer le traitement, je n'ai trouvé ce médicament nulle part dans aucune pharmacie de la ville. Même lorsqu'on a l'ordonnance, on ne trouve pas toujours les médicaments nécessaires pour se soigner. Conséquence, ça retarde notre traitement et parfois on est obligé d'interrompre complètement les traitements qui peut conduire à une rechute.
Face à l'ampleur de la crise et à l'urgence de la situation, l'association des pharmaciens du Nord Kivu lance un cri d'alarme aux autorités sanitaires. Elle appelle à un approvisionnement urgent et continu et plaide pour l'ouverture d'un corridor médical afin de sauver des vies. Pour ces malades, l'accès au traitement n'est pas un luxe, mais une question de survie. Actuellement, certains se tournent vers des circuits parallèles, souvent à des prix exorbitants. D'autres n'ont tout simplement plus accès à leur traitement.
Dans la province de la Tchopo, face aux rumeurs persistantes et infondées relatives à la disparition ou à l'atrophie des organes génitaux masculins, le gouverneur des provinces condamne fermement ces faux bruits et les conséquences y afférentes, notamment les atteintes à l'intégrité physique et les assassinats. Dans un communiqué publié hier, Didier Lomoyo appelle la population de cette entité au calme et à ne pas y prêter oreille. Cet appel intervient 24 heures après l'assassinat de 3 personnes dans la ville de Kisangani et 48 heures après la disparition tragique des 4 enquêteurs de l'école de santé publique. Le point avec Jacques Moukonkole.
Ces rumeurs sèment la panique et la psychose au sein des communautés, entraînant ainsi des conséquences incalculables, notamment les pertes en vies humaines. Ces bruits ne reposent sur aucun fondement factuel, indique le communiqué de l'autorité provinciale. Par conséquent, Didier Lomoyo appelle la population à la vigilance et au discernement, et surtout à ne pas céder à ces rumeurs, à la désinformation et à la manipulation. Par ailleurs, il prévient les personnes qui se prétendraient victimes ou accuseraient autrui faussement d'avoir fait atrophier mystérieusement son sexe. Elles s'exposent à des poursuites judiciaires, souligne-t-il. Pour sa part, le professeur Eric Mafuta, directeur de la santé publique, s'est dit choqué par l'assassinat de ses collaborateurs. Il plaide auprès des autorités afin que les circonstances de leur disparition inopinée soient élucidées. Enfin, l'Agence belge de développement international, Enabel, prend des mesures préventives par rapport à ces graves incident d'Isangi. Elle vient de suspendre ses activités jusqu'à nouvel avis dans les localités d'Ilambi et Yafira, théâtre de ces événements tragiques. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maïndombe, 2 morts dont une femme pygmée et une centaine de maisons de peuples autochtones PA incendiées par les Bantous dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier à la commune rurale de Bokoro dans les territoires de Koutou. À la base, un homme peuple autochtone a abattu un Bantou après l'avoir attrapé en flagrant délit d'adultère avec sa femme. Selon le gouverneur de Maïndombe qui s'est rendu mardi sur les lieux pour s'enquérir de la situation, ces vives tensions ont occasionné plusieurs blessés et la fuite de peuples autochtones dans la forêt. Les Bonkoso Kevani appellent les deux peuples en conflit au calme, à la tolérance et à la paix. Il est joint par votre serviteur.
Le PA qui a dû surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère et il a immédiatement tiré sur l'homme, le Bantou, et qui a succombé à ses blessures. Et bien voilà, tout est parti de là. Il y a eu des représailles de côté des Bantous qui ont lynché certains PA et c'est une situation alarmante qui s'est passée ici. Nous nous sommes dit il faut que nous-mêmes nous puissions venir nous rendre compte de la situation. Et c'est ce que nous avons vécu. Nous avons été aussi à l'hôpital voir le blessé. Et maintenant là, nous allons devoir parler avec les deux communautés séparément, avec la notabilité des Bantous ici à Bokoro et également avec les PA eux-mêmes. Nous avons lancé un appel pour que tous les PA qui sont dans la forêt puissent sortir de manière à ce que nous puissions échanger avec eux. Pour le moment, donc, il y a quand même l'apaisement. Les esprits se sont quand même apaisés. Comme vous le savez, comme le stipule aussi la loi promulguée par le chef de l'État, nous tous, nous devons faire en sorte que les peuples autochtones pygmées soient protégés dans notre province, le Maïndombe.
Précisons que le gouverneur de la province du Maïndo, Menkoso Kevani, a effectué cette descente à Bokoro avec le président de l'Assemblée provinciale ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Maïndo afin de calmer la tension. Dans la province du Sankuru, un calme apparent règne ce mercredi à Lodja après les troubles qui ont secoué lundi et mardi cette localité. C'était après le meurtre du président des jeunes du quartier Otekele. Le défunt tentait de protéger les sœurs franciscaines malmenées par les sympathisants d'un élève candidat malheureux à l'élection du représentant des élèves du lycée d'Okenye. Le courant même était suspendu dans toutes les écoles catholiques de Lodja ce mardi. L'administrateur du territoire de Lodja et l'évêque du diocèse de Tchoumbé appelle les uns et les autres à la retenue. Des explications avec Esther Ndalafina.
D'après les sources sur place, un calme apparent règne ce mercredi dans la localité de Lodja. La famille éprouvée du feu président des jeunes du quartier Otekele a accepté d'inhumer ce mercredi la dépouille mortelle de leur défunt fils poignardé lundi par les sympathisants d'un élève candidat malheureux à l'élection du représentant des élèves du lycée Lokenye. Certains habitants affirment que très peu d'élèves de quelques écoles catholiques ont repris le chemin de l'école. D'autres parents gardent encore leur enfants à la maison à cause de la peur. François Mouledi, administrateur de territoire de Lodja, appelle ses administrés au calme et à la retenue.
Il y a un peu plus de progrès pour le monde qui est là-bas. Nous avons conscientisé la population, que la population soit calme, que chacun se marque à ses occupations, à une souffrance au travail.
Rappelons que les cours ont été perturbés dans les écoles de Lodja lundi et mardi après la publication des résultats de l'élection du représentant des élèves du lycée Lokenye, une école gérée par les religieuses. La police a procédé à quelques arrestations, affirme l'administrateur du territoire. Dans un communiqué publié par la chancellerie du diocèse de Tchoumbé, l'évêque Vincent Tchomba déplore les actes de pillage et de violence. Il demande aux personnes impliquées dans ce conflit de cultiver la paix. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo Kasaï plaide pour la vaccination des élèves et enseignants du territoire de Mweka contre le virus Ebola. Cette structure craint le pire, surtout avec la reprise des cours et invite les gouvernements congolais à augmenter la quantité des vaccins. Elle plaide pour que les banques syndicales prennent également part aux réunions de riposte contre Ebola. Plus de détails avec André Katende Ngalamoulomé.
Dans sa déclaration du mardi dernier, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, section du Kasaï, s'est plaint que les enseignants et élèves du territoire de Mweka ne bénéficient pas des vaccins contre le virus Ebola. Selon son président provincial, seuls les corps soignants sont pris en compte. Félicien Lobo-Mwamba craint les risques de contamination chez les enseignants et élèves avec la reprise des cours dans la région.
Je remonte de nouveau au créneau pour solliciter auprès du gouvernement central ce qui suit. 1. Ravitailler de toute urgence cette population en quantité considérable de vaccins afin que les professionnels de la CRE en bénéficient. 2. Associer le banc syndical de cet espace à toutes les réunions et organisations.
Contacté à ce sujet, Dr Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique qui gère la situation de la maladie à virus Ebola dans la région, fait savoir que jusqu'à présent, la vaccination n'est pas élargie à tout le monde. Il y a seulement les personnes à risque, les malades et les contacts ou familles de malades qui en bénéficient. Il reconnaît le rôle des enseignants dans la riposte et invite les syndicats à se rapprocher du médecin chef des zones de santé de Mweka ou à l'antenne PEV pour avoir accès aux informations. De Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Inspecter et réceptionner les routes récemment réhabilitées, tel est l'objectif d'une mission mixte actuellement déployée dans la province du Maniema, composée des membres du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, de confessions religieuses et des organisations de la société civile. Cette mission inspecte les tronçons Kindu Pangi et Kindu Kailo. Ces routes ont été réhabilitées grâce aux fonds recueillis dans le cadre de la collecte des taxes conventionnelles initiées par le gouverneur des provinces il y a quelques mois. Les travaux menés par l'Office provincial d'entretien routier du Maniema ont débuté en janvier 2025. Florence Kizalunga.
Avec à sa tête le gouverneur de province, cette mission a pour objectif d'évaluer les travaux réalisés par l'Office provincial d'entretien routier du Maniema au Perma au cours de 8 derniers mois. Ces travaux ont permis l'ouverture de plus de 400 km de route. Ils ont consisté en des opérations de débroussaillage, d'abattage d'arbres, de décapage et à la mise en place de certains caniveaux. Dans les territoires des Pangui, les travaux ont été effectués sur quatre axes principaux. Nyokapangui, 88 km, Pangui-Lubi, 88 km, Lubile-Kalima 45 km et Kikungwa-Misoke-Lubilazia 37 km. Dans le territoire de Kailo, des axes ont été concernés. Benamboto-Kailo 20 km et Lonyoma-Pont-Ulindi 75 km. Ces travaux financés grâce à la taxe conventionnelle visent à désenclaver la province du Maniema. Comme vous le savez, en raison du manque de routes, cette province dépend en grande partie de la voie aérienne pour son approvisionnement. Avec cette initiative du gouvernement provincial, de nombreux observateurs estiment qu'il s'agit d'une étape importante pour permettre à la province de se prendre en charge sans attendre systématiquement l'appui du gouvernement central. Depuis Pangui, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
7 ans après sa dernière visite à Maroua, c'était également dans le cadre d'une campagne présidentielle. Paul Biya était de retour dans cette ville du Nord hier pour son premier meeting depuis le début de la campagne. Une tradition pour le président camerounais qui a choisi à 6 reprises de lancer sa course électorale dans les Septentrion. Cependant, la sérénité qui caractérisait souvent l'alliance entre Paul Biya et cette région est aujourd'hui ébranlée. Selon les observateurs, la rupture avec des partis alliés ayant fragilisé cette relation. Malgré tout, les militants qui ont fait les déplacements au stade Yaya Daïrou ont tenu à rappeler leur attachement à l'homme du renouveau, comme les qualifient ses partisans.
L'invité.
Notre invité est Ali Bingui, assistant social et chargé de projet pour les œuvres Maman Marguerite à Lubumbashi. Cette structure appartenant aux Salésiens de Don Bosco regroupe plusieurs centres qui encadrent actuellement plus de 400 enfants en rupture familiale à Lubumbashi et Kipushi. Ali Bingui explique notamment comment sa structure procède à la réinsertion familiale de ses enfants. Il s'entretient avec Paul Mounanga.
Monsieur Ali Bingui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Les œuvres Maman Marguerite encadrent plusieurs enfants vulnérables à travers la ville de Lubumbashi, donc des enfants pauvres et abandonnés. Comment se passe cet encadrement de ces enfants-là?
Les œuvres Maman Marguerite, c'est un réseau qui renferme 15 centres d'encadrement des enfants à rupture familiale. Communément, la population appelle les chèques, mais nous ne voulons pas nous les appeler sous cette qualification-là, parce que les enfants ont les devoirs et aussi ont les droits, comme tous les autres enfants. Alors l'encadrement se passe de cette façon ici. Nous faisons la sensibilisation dans toutes les avenues et le marché de la vie de Lubumbashi. On dit aux enfants que la vie si la rue n'a pas d'avenir. Et chez vous, c'est ça la place. Dans la famille, c'est ça la place qu'il faut pour chaque enfant. Alors nous disons, tous les enfants qui ont besoin de retourner dans leur famille, ils peuvent venir chez nous. Et nous allons maintenant faire jouer les ponts entre l'enfant et la famille. Et quand les enfants viennent chez nous, vous les voyez s'ils arrivent, comment ils sont. Ils ont beaucoup d'antivaleurs. Alors, ils viennent ici, on commence la rééducation.
Ils viennent volontairement?
Oui, c'est volontairement. C'est l'élément que je veux que vous puissiez souligner. On ne force pas. L'éducation sans l'enfant lui-même, ça ne sert à rien. Alors, l'enfant doit être au centre de sa propre éducation. Et comme nous les sensibilisons, on les laisse, nous arrivons chez nous et ils font l'effort de quitter et aussi de venir chez nous. Nous voyons déjà, c'est déjà une volonté qui est manifestée. Alors quand ils viennent chez nous, nous avons une psychologue, nous avons les éducateurs, nous avons les sociologues, nous avons les prêtres aussi qui sont là-bas. On commence par une rééducation et aux bonnes mœurs, à ce qui est la vie, ce que la société accepte. Si les enfants peuvent laisser de consommer l'alcool, si les enfants peuvent laisser les consommer des drogues, des chanvres, ainsi de suite, et des autres étant tout petits sont déjà actifs sexuellement, on doit les éduquer pour quitter toute cette vie-là. Alors si nous voyons les enfants qui commencent à mordre à cette façon de faire, commencent à petit, parce que ce n'est pas bâton magique qu'ils abandonnent, non, c'est un processus très long, alors on commence au même moment aussi à toucher aspect famille, parce que notre objectif c'est un jour les retourner dans leur famille.
Aspect famille, comment est-ce que vous touchez ces côtés-là?
Alors, nous demandons à l'enfant, ok, comme on vous avait parlé, s'il arrive ce jour-là, que si vous voulez rentrer chez vous, quelle que soit la chose qui s'était passée avec la famille, on va essayer de retravailler avec vous et avec la famille pour retourner chez vous. Nous demandons à l'autre, chez toi c'est où? Il va nous dire, c'est tel endroit, et on va trouver le temps d'aller chercher si on va trouver cette famille-là. Et on trouve la famille, on passe juste informer que votre enfant n'est plus sur la rue, mais plutôt est chez nous. Nous voulons que, et vous la famille, et nous, on travaille sur l'enfant pour qu'un jour il puisse rentrer chez nous.
Et en encadrant ces enfants-là, quels sont les problèmes récurrents auxquels vous faites face souvent?
Il y a beaucoup de problèmes que je vais vous dire. Ça, c'est l'aspect familial. Pour y arriver, il y a d'autres familles qui refusent les enfants, qui ne veulent pas des enfants. C'est le premier point. Deuxième point, il y a aussi les enfants qui refusent de rentrer. Il y a aussi les problèmes financiers. Parce que pour y aller, nous devons avoir l'argent. Et si on dit que dans cette famille, on va y retourner là-bas 5 fois, 6 fois, vous voyez les coûts ça va prendre. Il y a l'aspect scolaire. Quand les enfants sont chez nous, ne restent pas sans rien faire. Non, ils doivent aller à l'école. Donc, on doit voir tout ce qu'il faut pour la scolarisation des enfants. Et aussi, il y a ceux qui doivent aller dans les centres de formation professionnelle. On doit voir tous les kits nécessaires pour ça aussi. Et il y a aussi des problèmes dans ces centres-là que nous rencontrons. Comment on va payer les enseignants qui doivent les encadrer? Et ce sont des problèmes très compliqués que nous sommes en train de faire face chaque jour. Mais Dieu aide parce que chaque année, nous retournons les enfants chez eux. Chaque année, il y a les enfants qui terminent la formation.
Et comment est-ce que vous vous débrouillez?
Notre budget mensuel est de 30 000 $. Pour qu'on puisse répondre aux besoins de tous les enfants. Alors, il y a 3 sociétés qui nous donnent, une société 2 000, l'autre 3 000 et une autre 1 000. Nous avons, si 30 000, nous avons un budget mensuel de 6 000. Par contre, notre budget doit être de, au minimum, 28 000 ou 30 000.
Les œuvres Maman Marguerite, c'est un réseau qui regroupe 15 centres, vous venez de le dire. Et quels sont les métiers qui sont organisés dans ces différents centres?
Il y a la coupe et couture pour les filles et les garçons aussi quand même. Il y a l'agriculture et l'élevage. Il y a soudure, il y a construction, il y a cordonnerie, il y a menuiserie, il y a art plastique, il y a aussi transformation. Tous les produits des champs, on peut les transformer en confiture.
Monsieur Ali Bingui, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était notre invité Ali Bingui qui s'entretenait avec Paulin Monanga et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée qui a connu la coordination d'Élisée Chikota-Chivoeta, la supervision éditoriale d'Alain Irung. Sa mise en onde a été assurée de main de maître par Pierre Diassinois. Vous pouvez encore suivre ce journal sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.